Bienvenue aujourd'hui, on est lundi 14h, comme tous les lundis, à 14h, nous voilà, je vais au ciné, et aujourd'hui j'ai avec moi déjà Michael.
Bonjour.
Nous fait pas de chronique aujourd'hui.
J'ai pas envie.
Non, t'as pas envie, t'as raison. Ce sera la semaine prochaine pour lui, cette semaine c'est moi qui ferai la chronique, une fois n'est pas coutume. Voilà, on n'a personne d'autre, donc c'est moi qui vais le faire.
Oui, on l'a laissé essayer.
Ouais, je vais m'essayer à ça. Et puis avec nous, on a aussi les gens de Polymage 41, bien plus qu'un studio. On a avec nous Alexia Hurier.
Salut.
Et puis Frédéric Choquet.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Choquet. On parlera de vous après ma chronique. Et puis on fait une chronique, je le rappelle. On fait une petite pause musicale. On repasse avec les personnes de Polymage 41, bien plus qu'un studio. Et puis on parlera certainement d'un film à la fin ou deux si on a le temps. Sinon, ce sera la fin de l'émission et ce sera déjà bien. On aura fait une bonne demi-heure. Je vais commencer. Alors d'habitude, je fais un petit extrait musical ou extrait de film. Mais là, comme c'est moi, je vais pas faire une surprise. C'est encore un peu débile.
T'as du mal à te surprendre.
Ouais, j'ai du mal à me surprendre. Ah. Donc je vais commencer et puis voilà. Avant de commencer cette chronique, j'ai une question purement rhétorique. Le cinéma vous a-t-il donné envie de créer un mouvement social? Eh ben, vous êtes sans doute rare à vous dire oui. Le masque de Guy Fawkes, sorti tout droit du film V for Vendetta, est encore régulièrement visible dans les manifestations grâce, entre autres, à Anonymous et le mouvement Occupy. Peu de films ont eu un impact réel sur les gens au point d'avoir créé un vrai mouvement social. Le film dont je vais parler a eu un mouvement relativement discret lors de sa sortie et a certainement été oublié depuis. Je parle du film AIDS Wonderland de Nicolas Alberni et de Jean Mack. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce film? Et c'est simple, c'est un film français avec un budget très loin des blockbusters américains, mais qui a su se rendre suffisamment crédible et relativement bienveillant sur une forme de démocratie sur Internet. AIDS Wonderland raconte la vie d'une communauté sur Internet qui se constitue en pays virtuel avec une démocratie directe. Tous ses membres peuvent voter à parts égales et comme financement, chaque membre doit payer une taxe journalière. Une utopie virtuelle qui dérive rapidement par des actes illégaux, voire même terroristes. Ce film sorti en 2010 est une vision futuriste de l'Internet dans le monde des révoltes sociales. Ce film fait un constat simple, Internet aura un impact prépondérant sur les mouvements sociaux au point qu'ils vont permettre de les organiser n'importe où dans le monde. Le mouvement dérive à cause du meurtre d'un dirigeant réélu dans son pays le jour même de sa réélection. Le mouvement devient extrême et finit par se faire détruire simplement à cause de ses serveurs Internet, eux aussi détruits. La fin du film montre une lueur d'espoir avec une autre façon de lutter en s'attaquant au monde de la finance. Tout comme les Gilets jaunes, à l'heure actuelle dans le film, les membres du groupe ont besoin de reconnaissance et affichent lors de leurs actions le logo de leur site internet. Cette reconnaissance aura un impact puisqu'il fera connaître le mouvement via les médias. Malheureusement, le signe distinctif du film n'a pas eu d'effet sur notre société. Sans doute car pas très facile à reproduire et que le film aura une sortie discrète. Petit problème dans le film, le groupe n'a aucune communication vers l'extérieur. Et malheureusement pour eux, il est arrivé la même chose que pour Anonymous, des gens se sont servis d'eux pour faire de l'argent et dénaturer le mouvement. Des gens ont été inspirés par ce film au moment de sa sortie. J'avais fait partie pendant peu de temps d'un groupe s'inspirant du film pour faire avancer les choses et s'appelant aussi AIDS Wonderland. Au moment où j'avais intégré ce groupe, je me suis demandé quels étaient nos moyens réels d'agir, vers quoi ce mouvement passait de fiction à réalité allait être meilleur. Très vite, je me suis rendu compte que le modèle n'était pas forcément le fonctionnement le plus idéal, que cette forme de démocratie n'était peut-être pas au point. Certains mouvements plus simples ont émergé dans le monde, le printemps arabe, les gilets jaunes, ou encore la révolution des parapluies à Hong Kong qui s'est créée d'eux-mêmes. Depuis très peu de temps, le film Joker est sorti et il fait déjà parler de lui, sur Internet, par des mèmes, mais aussi par des manifestations où certaines personnes se maquillent comme le personnage du film. Ces maquillages photographiés dans des manifestations au Chili et plus particulièrement au Liban, a eu un impact sur ces populations qui se sont reconnues dans un message tiré d'une œuvre cinématographique. On ne doit pas tout au cinéma. Jane Sharp, philosophe américain, a écrit « Les politiques de l'action non violente, mais plus particulièrement de la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la libération », qui donne dans ce dernier ouvrage de moins de 100 pages, 198 conseils pour réussir une révolution, surtout celui d'avoir un logo et une identité visuelle. Cette identité visuelle peut être empruntée au cinéma, mais aussi plus largement à la culture populaire. Le cinéma n'a donc pas un rôle si important, voire même anecdotique. Mais j'en suis pas sûr, mais comme tout message, il faut régulièrement trouver un autre moyen de le faire passer. De nouveaux exemples, via les séries télé, se font voir aussi grâce, entre autres, à la Casa des Papel et à la Servante Écarlate, qui ont fait, elles aussi, leurs apparitions en manifestation. Alors, je vous donne pour finir cette chronique, petite aide à regarder sur YouTube. Il y a le masque symbole de mouvement de contestation sur la chaîne YouTube Brut par l'historien Thomas Snegaroff qui parle justement de Jean Sharp. Comment la pop culture inspire les mouvements sociaux sur celle de l'AFP et au Liban, le Joker devient un symbole de manifestation sur la chaîne Le HuffPost. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur notre site internet, le studiozef.fr, sur la page de cette chronique. Et on va enchaîner avec une musique qui va être Mental de Grand Corps Malade, qui est dans le film Patient.
S'il y a bien une idée qui rassemble, une pensée qui n'est pas toute neuve, c'est que quel que soit ton parcours, tu rencontres de belles épreuves. La vie c'est Mr. Hyde, pas seulement Dr. Jekyll. J'ai vu le film depuis longtemps, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. T'as qu'à voir les réactions d'un nouveau-né à l'hôpital. S'il chiale si fort, c'est qu'il comprend que souvent la vie va lui faire mal. Il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des bas, il y a des hauts. Il y a des soleils et des orages et je te parle pas que de météo. On vit dans un labyrinthe et il y a des pièges à chaque virage. À nous de les esquiver et de pas calculer les mirages. Mais le destin est un farceur, on peut tomber à chaque instant. Pour l'affronter, faut du cœur et un mental de résistant. J'ai des cicatrices plein la peau et quelques-unes dans mes souvenirs. Y'a des rescapés partout, je suis qu'un exemple, ça va sans dire. Ça doit se sentir, faut pas se mentir, la vie c'est aussi la guérison. Après la foudre, prends-toi en main et redessine ton horizon. Y'a des tempêtes sans visage où on doit se battre contre le pire. Personne n'y échappe, Rouda, c'est pas toi qui va me contredire. C'est l'ultime épreuve où tu affrontes la pire souffrance morale. Quand la peine rejoint l'impuissance pour la plus triste des chorales. J'ai vu des drames à cœur ouvert, j'ai vu des gens qui s'accrochent. Ce qui est bien avec le drame, c'est que tu le partages avec tes proches. Pour les miens, il est peut-être l'heure de m'arrêter un court instant, pour les remercier d'avoir du cœur et un mental de résistant. La vie est aussi perverse, ce que tu désires, elle l'a caché. Elle te le donnera pas tout cuit, va falloir aller le chercher. Du coup, ce qu'on a, on le mérite, au hasard, on n'a rien piqué. Et si t'as pas compris, va voir mes potes, ils vont t'expliquer. Jackie, tu m'as dit que l'ascenseur social était bloqué. Toi, t'es allé chez Otis et le réparateur, tu l'as braqué. Sans craquer, sans rémission, t'as affronté de vraies missions. Tu m'as montré qu'avoir du mental, c'est aussi avoir de l'ambition. Y'a pas de chemin facile, Brahim, t'as rien demandé à personne. T'as tout construit de tes mains et y'a pas que moi que tu impressionnes. Toi, Samy, t'es notre moteur, parce que tu sais depuis longtemps. Pour que ça schémarre, il faut du cœur et un mental de résistant. Je crois qu'on a tous une bonne étoile, sauf que des fois elle est bien planquée. Certaines même plus que d'autres, il faut aller les débusquer. Parfois ça prend du temps quand tu fais trois fois le tour du ciel. Mais si tu cherches, c'est que tu avances, à mon avis c'est l'essentiel. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de barrière infranchissable. Il faut y croire un peu, il y a bien des fleurs qui poussent dans le sable. Et c'est quand tu te bats qu'il y a de belles victoires que tu peux arracher. Comme se relever avec une moelle épinière en papier mâché. Je n'apprends rien à personne, tu es vivant, tu sais ce que c'est. Vivre, c'est accepter la douleur, les échecs et les décès. Mais c'est aussi plein de bonheur, on va le trouver en insistant. Et pour ça, faut du cœur et un mental de résistant.
Nous revoilà, on est avec Polymage 41, bien plus qu'un studio.
Yo.
Ah, j'ai oublié la fin. Avec Frédéric Choquet et Alexia Hurier. Donc vous allez nous parler déjà du studio en tant que tel, et puis, on va aussi parler du concours que vous avez fait de scénario. Et puis on reviendra sur le studio peut-être la semaine prochaine un peu plus profondément. Là, c'est histoire d'évoquer un peu ce que vous faites dans le studio déjà.
Alors, au niveau du studio, ce qu'on y fait, on y fait du cinéma, de l'audiovisuel. On y fait donc tout ce qui concerne l'image. Ça va de la construction de décors à l'écriture, en passant par la réalisation, forcément, le montage. Et éventuellement un petit peu de diffusion aussi, mais c'est principalement quand même la réalisation. Voilà, donc pour ce faire, on a plusieurs corps de métier qui travaillent chez nous ou qu'on fait travailler. Voilà, puisque vous savez que le cinéma, c'est quand même le 7e art, c'est un art qui emploie le plus de corps de métier. Il y en a plus de 150, donc c'est quand même énorme. Voilà. Et on est amené à travailler avec ces gens-là parce que le département du Loir-et-Cher est très riche en talents de techniciens divers et variés, donc autant techniciens d'ailleurs que comédiens ou artistes ou musiciens. Voilà. Donc c'était important pour nous de créer une structure comme ça pour permettre à tous ces gens-là de pouvoir s'exprimer. Voilà, et puis de faire aussi monter les jeunes talents aussi qui sont méconnus et qui méritent d'être plus connus, de leur donner les moyens d'aller jusqu'au bout, puisque vous savez tous que le cinéma, c'est quand même un sacré parcours du combattant. Des fois, il se passe plusieurs années avant d'arriver au bout. Voilà, donc il ne faut pas désespérer, il faut vraiment s'accrocher et puis en vouloir aussi. Voilà. Donc si on peut apporter une petite pierre pour permettre à ces jeunes talents d'aller au bout, eh ben, tant mieux. Voilà, grosso modo.
D'accord, ça a l'air très intéressant. Vous le pratiquez dans un lieu, s'il me semble, un studio
Alors,
qui est sur Blois.
Oui, sur Blois depuis un an maintenant.
Un an, ouais.
Avant, on était sur Vendôme. Sur Blois, on était sur à peu près 1400 m² de plateau.
D'accord, ouais, c'est déjà un beau plateau.
C'est déjà un beau plateau. Alors, soit modulé en plusieurs petits décors, suivant les nécessités de tournage, ou alors modulable en un seul grand décor. Voilà,
vous vouliez dire sur Vendôme, vous avez dit sur Blois.
De sur Blois, maintenant, depuis un an.
1400 m² sur Blois.
Ouais.
Ah d'accord, ouais. Ok, j'avais compris l'inverse. Non, mais ok.
Non, sur Vendôme, on avait 1000 mètres, et puis là, sur Blois, on a un peu plus de 1400 m², mais on ne va pas y rester. On va déménager là d'ici peu. Pour se rapprocher du centre, parce que là on était un peu excentré, et puis on a des possibilités qui sont très intéressantes aussi en essayant d'avoir le plateau idéal.
Le plateau idéal, c'est-à-dire ?
Plateau idéal, si. Alors bon, je vais rentrer un petit peu dans les doléances, on va dire, du CNC. Vous savez que en France, le cinéma se porte relativement bien, je dis bien relativement bien. Mais ce qui se porte moins bien, c'est les studios français. Voilà, beaucoup de films français sont faits à l'étranger.
Oui.
On est d'accord. Et les studios français, par contre, sont dans des états vétustes. On va pas revenir sur ce qui se passe avec la Cité du cinéma, n'est-ce pas ? Bref.
Ouais, c'est pas les seuls. Je me souviens avoir vu, là, il n'y a pas longtemps, sur les anciens studios d'AB, je crois qu'ils appartiennent plus à AB, mais à AB Productions. Mmh. Leurs anciens studios aussi sont pas en très très bonne forme.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ceci dit, vous voyez que dans le sud, par exemple, à côté de Montpellier, du côté de Vendargues, ils ont construit des studios, des grands studios exprès pour tourner leurs séries. Comme pour rivaliser un petit peu avec la série Plus belle la vie, voilà. Donc
France Télé.
Ouais.
Ouais, c'est France Télé.
France Télé.
Voilà. Et il y a un rapport qui est sorti du CNC il y a à peu près 8 mois maintenant, où il a été fait un bilan, un état des lieux des plateaux de tournage en France. Et donc, c'est vraiment catastrophique. Et là, comme Netflix, en plus, s'est implanté à Paris depuis le mois de juillet, ils ont des bureaux à Paris maintenant, et ils ont affiché clairement leur volonté. Hein, c'est vraiment tourner 200 séries en 2 ans.
D'accord. Ah oui, quand même.
Donc, et en France, une cinquantaine sur les 200. Voilà. Donc, y a en tournage en Europe, il y en a une cinquantaine. Normalement, ils aimeraient en tourner une cinquantaine en France. Sauf que si les plateaux, si on n'a pas les plateaux,
Voilà. Et puis c'est leur stratégie à Netflix, ils ont tout intérêt à développer le côté série européenne qui a marché, puisque avec la concurrence qui se dessine, Apple qui a démarré son service au début du mois, Disney qui va arriver l'année prochaine, HBO qui s'est associé à Warner et qui va arriver dans la suite aussi, Amazon qui commence à leur grignoter des parts, ils commencent à être cernés de toutes parts.
Et puis chacun amène un gros blockbuster. Enfin, qui disent. Donc, c'est vrai que la rivalité, là, au niveau de l'audimat aussi, ça va être quelque chose. Donc, après, on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que je perds le fil, faut que je le reprenne.
Les studios ont une seconde vie à avoir, surtout avec les plateformes de
streaming.
Oui, tout à fait. Ça, c'est évident. Et il ne faut pas des grands plateaux. C'est-à-dire que le bilan qui a été fait, c'est qu'avec des plateaux de 700 mètres carrés, pour rivaliser un petit peu aussi avec ce qui se fait en Angleterre, un plateau de 700 mètres carrés en France, c'est le compromis idéal pour pouvoir faire des choses intéressantes. Par exemple, un studio de 700 mètres carrés avec 10 mètres de hauteur, vous pouvez faire un immense fond vert, les fameux fonds verts, qui permettent de plus en plus maintenant de faire des trucages. La plupart des films maintenant, au lieu d'aller tourner sous la neige, on tourne dans un studio sur fond vert. On fait plein d'effets spéciaux, ça coûte moins cher. Donc ça, c'est pratique. Et le CNC a demandé, en tout cas, a proposé aux régions, leur a dit que c'était vraiment important que chaque région puisse proposer un plateau de tournage dans sa propre région. Donc là, il y a des aides qui sont en train de se mettre en place pour que chaque région puisse, alors il y en a certaines qui l'ont déjà, mais pour que celles qui ne l'ont pas puissent bénéficier de ces aides et puissent créer des studios pour dynamiser un petit peu toute cette industrie qui génère quand même, il faut le savoir, en Bourgogne, je crois, le constat, il est clair, ça a été divulgué il n'y a pas si longtemps que ça. 1 euro investi en rapporte 5 à la région de Bourgogne. Donc c'est quand même important.
C'est important.
Voilà.
Ok, vous faites aussi en ce moment un concours un concours de scénario, si j'ai une bonne mémoire.
Voilà, ouais. Donc là, je vais laisser parler Alexia, puisque c'est elle qui est en charge.
Oui, donc en fait, on fait un concours, donc c'est un appel à scénario qui est ouvert en fait à toute la région et quel que soit le niveau en fait des gens qui veulent participer. Le but, c'est de créer un scénario qui fasse maximum 3 pages, ce qui représente environ 3 minutes en vidéo.
D'accord.
Et donc, il y a quand même quelques conditions. On ne veut pas qu'il y ait trop d'effets spéciaux, on ne veut pas qu'il y ait trop d'acteurs ou trop de décors qui soient improbables en fait, parce qu'il faut que ce soit quand même réalisable dans les décors qu'on a autour dans la ville de Blois par exemple. Après, on a également le studio, donc Polymage 41, qui a quand même des décors vraiment sympas dans lesquels on peut tourner. Mais comme on veut tourner ça en 1 ou 2 week-ends, il faut quand même que ça reste un minimum limité.
Il faut que ce soit une production simple et pas trop cher à produire. On ne va pas commencer à faire un truc de KPDP.
C'est ça, on ne va pas faire un blockbuster.
Beaucoup de costumes ou ce genre de choses. Effectivement, ça devient compliqué pour un court-métrage.
Exactement. Ouais. Et en fait, le principe, là, c'est vraiment de proposer aux gens qui ont des idées de scénarios, mais qui n'ont pas forcément la technique parce que ça ne les intéresse pas ou parce qu'ils ne connaissent pas, de pouvoir avoir des techniciens, en fait, pour réaliser leur court-métrage, sur lequel ils seront invités, évidemment. Après, selon le niveau des personnes qui écrivent le scénario, ils pourront peut-être même être réalisateurs. Donc, je pense que ça peut être hyper intéressant pour eux. Et le but, c'est aussi de fédérer des gens, de fédérer des compétences, que des gens qui se réunissent, parce que, comme l'a dit Fred tout à l'heure, en fait, dans la région, il y a beaucoup de gens qui sont associés au cinéma ou la vidéo, que ce soit des professionnels ou juste des gens qui s'y intéressent. Et en fait, personne ne se connaît vraiment.
D'accord.
Enfin, moi, avant de rejoindre, par exemple, Polymage 41, je connaissais quelques vidéastes, mais j'aurais jamais cru qu'il y en avait autant dans la région.
Ok. Ah bah oui, c'est... Alors, on ne sait pas toujours ce qui est sur le terrain. C'est vrai qu'une association qui regroupe des gens, c'est toujours plus facile Puis au moins, il y a une image, il y a quelque chose derrière. Se retrouver via Internet, ce n'est pas toujours évident.
Oui, oui, oui. Et puis de toute façon, je le disais tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est que faire un film tout seul, on peut forcément, on peut faire un film tout seul, mais ça reste extrêmement limité. Mmh. Et si on veut se donner, entre guillemets, l'ambition, on ne peut pas tout savoir au niveau de toutes les techniques du cinéma. Donc autant faire appel à ceux qui savent, chacun dans leur domaine, pour au moins déjà avoir la qualité derrière.
Oui, de rassembler plusieurs compétences, en fait, et de faire un travail commun.
Où on peut retrouver ce concours ?
Alors, on peut retrouver tout le règlement, toutes les conditions sur le site de Polymage 41, bien plus qu'un studio, également sur la page Facebook.
Alors, la page Polymage, c'est facile, www.polymage41.fr. Voilà, et puis la page Facebook, c'est Polymage 41, bien plus qu'un studio, par contre.
Ok. Eh ben, je mettrai le lien sur l'article sur le studio, sur Studio Zef. Et puis on va enchaîner sur une musique. Je pense le thème de Jurassic Park, ce serait bien. Comme ça, on aura une bonne lancée pour la suite. Toujours avec nos amis de Polymage 41, Alexia Hurier et Frédéric Choquet. Et Mickaël, tu vas nous parler d'un film.
Oui.
Yeah.
C'est vachement inattendu pour une émission sur le cinéma, moi, je trouve.
Ouais, moi aussi, je trouve aussi.
Alors, je vais vous parler d'un film que vous avez certainement déjà entendu parler, parce qu'il il appartient à la catégorie blockbuster, et à moins de vivre dans une grotte, c'est difficile de passer à côté.
Et le Joker. Non, on l'a fait la semaine dernière.
Non. Quoique blockbuster, il y aurait des choses à redire. Non, je voulais parler de X-Men Dark Phoenix, qui j'ai trouvé particulièrement intéressant pour des points que je vais évoquer. Alors, X-Men Dark Phoenix est le dernier opus en date des super-héros X-Men sous l'égide de la Fox, réalisé par Simon Kinberg, qui officie à la réalisation comme au scénario. Alors, bon, de quoi ça parle, si c'est nécessaire de le rappeler? Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort à cause d'une mystérieuse force cosmique. Quand elle revient sur Terre, elle se rend compte que ses pouvoirs sont décuplés, mais qu'elle en devient instable, incontrôlable et dangereuse pour elle comme pour ses proches. Voilà, le reste, regardez la bande-annonce, vous aurez une petite idée de ce qui se passe. Bon, voilà, on va pas se mentir, ce film est très moyen. Très très moyen. La réalisation est soignée, mais sans être exceptionnelle. Des acteurs qui sont en mode pilote automatique, à part peut-être Jessica Chastain et Sophie Turner, qui s'en sortent un petit peu mieux. Les dialogues pas toujours très inspirés. Donc on peut pas dire que ce soit une franche réussite. Mais quand on creuse un petit peu dans ce film, on se rend compte qu'il ne pouvait pas en être autrement. Tellement que la production a été désastreuse, et c'est là qu'on rejoint que c'est très difficile d'accoucher d'un film. Déjà, quand un réalisateur arrive à accoucher d'un film qui soit ne serait-ce conforme qu'à 50% de sa vision qu'il en avait à la base, c'est déjà un exploit. Et là, en l'occurrence, je crois qu'il peut rentrer dans un top de films maudits, il a un bon niveau. Alors, on va commencer dans le désordre. Une production totalement désastreuse, un marketing qui laisse sérieusement à désirer, des réécritures à foison, des reshoots, reports de sortie, et pour achever le tout, la Fox qui se fait racheter par Disney et qui leur dit « Bon bah écoutez les gars, mais les X-Men ça va aller dans le Marvel Cinematic Universe, donc allez-vous, alors vous faites ce film-là et puis après on arrête le tir les gars. » Ok, alors à la base le Simon Kinberg, l'autre il est arrivé avec son Dark Phoenix et dit « Bah je vais faire deux films. » Parce qu'on s'est déjà planté sur X-Men 3 pour adapter un comics du même nom, qui clairement est un monument de la pop culture dans le domaine des comics. Ils se sont dit, bon, on va essayer de ne pas se planter, on va essayer de faire ça sur deux films, comme ça on aura le temps de lisser notre histoire, de potasser le scénario, de développer les personnages, blablabla, etc. Ouais, non, tu vas faire un seul film, et puis on ne va pas redémarrer, en fait, on va conclure. Ok, bon, bah voilà. Je crois que partant de ce principe-là, quand on sait tout ça, on sait que ce film ne pouvait être que moyen à la base. Et j'irais même jusqu'à dire, compte tenu des handicaps qu'il a eu à la production, il s'en sort pas si mal. On pourrait dire, je crois qu'on pourrait y conclure en mettant X-Men Dark Phoenix moins pire que prévu. C'est pas vendeur, mais en tout cas, je pense que c'est bien résumé.
Il a pas eu de chance. Il y a des films qui ont pas de chance. Il y avait le Fossoyeur de films qui avait fait une série de vidéos sur les films maudits qui avaient eu des problèmes.
Oui, plus, tout à fait.
Film Wars.
Et je peux juste, je serais curieux de savoir pour toi quel est le meilleur des X-Men.
Le meilleur des X-Men.
Celui qui n'a pas été encore tourné, je pense.
Totalement. Non. Pour moi, le meilleur reste X-Men 2. Il développait des thèmes intéressants. On était encore au balbutiement du super-héros, donc on n'était pas encore dans cette bouillie d'effets spéciaux comme on peut avoir dans les films de super-héros actuels. Il arrivait à mêler sujets de société, bon, en grand mot, parce que ce n'est pas non plus un film d'auteur, mais voilà. Et grand spectacle. Donc pour moi, ce serait celui-là.
D'accord.
Même si X-Men le commencement était pas mal non plus, avec son côté 60s, un peu sympathique, un peu rétro du coup.
Moi, je vais vous parler très rapidement de Roxane, de Mélanie Auffray. Roxane, c'est un...
Deux salles, deux ambiances. Hein.
Ouais, ça n'a rien à voir. Roxane, c'est un film sur un agriculteur qui... Enfin, un agriculteur, un éleveur de poules. Pour les œufs, qui va perdre sa ferme parce que la coopérative décide de dire bah, on ne travaille plus avec les petits producteurs d'œufs. Et donc il va perdre toutes ses poules, puisqu'au bout de 18 mois, ce qu'on apprend dans le film, les poules vont à l'abattoir et il a des nouvelles poules pour faire des œufs. Le problème de ce gars-là, c'est que qu'est-ce qu'il va faire ? Il veut se battre, comme tous les petits producteurs de poules, et pouvoir continuer à faire avoir des poules et faire ses œufs. Le truc, c'est qu'il a sa propre poule domestique qui s'appelle Roxane, et il lit à ses poules du Cyrano de Bergerac. C'est son truc. Voilà, il aime bien lire à ses poules du Cyrano de Bergerac. Et donc, ce personnage-là, il va commencer à se filmer, à se mettre sur Internet. Et de là, il va commencer à avoir une petite notoriété. Il va essayer de sauver absolument sa ferme, mais au bout d'un moment, il n'y arrive pas. La notoriété sur Internet, ça ne suffit pas. Et il finit par avoir... Alors, je ne dévoile pas tout le film, mais il finit par avoir une idée qui va le sortir de ce problème-là. Parce que, en fait, Internet, ça ne suffit pas. Faire des vidéos, être connu, ça ne suffit pas pour arriver à s'en sortir. Donc, il trouve une idée pour se sortir de cette situation-là. Et il va essayer d'emmener tous ceux qui sont autour de lui pour arriver à globalement créer sa propre coopérative. Créer autre chose, quoi, finalement. Et se servir d'Internet. Alors, ce film est assez moderne parce que, il allie des problématiques qui sont de l'heure actuelle, parce que la principale raison pour que la coopérative ne prenne plus ses œufs, c'est parce qu'ils sont pas, enfin, ils sont tous éloignés, donc il y a du trajet, et donc ça coûte trop cher. Donc c'est juste pour un coût. Et l'autre problème, c'est que comment arriver à vendre des œufs ou à même à faire connaître son exploitation quand on n'est qu'un petit producteur. Et Internet permet cette possibilité-là de vendre en direct et en plus de plus passer par des intermédiaires, de dire voilà, je vous le vends et on n'en parle plus. Donc ce film est rigolo, il nous parle un peu de littérature, de jouer devant une caméra, puisque à un moment il prend des cours de français avec une anglaise qui donnait des cours de français, donc c'est assez amusant. Donc il y a vraiment aussi un côté elle lui apprend à jouer en fait. Et parce que être devant une caméra, ça s'apprend pas. C'est-à-dire, ça s'apprend à jouer. Tu joues des pièces de théâtre devant une caméra, c'est pas simple. Même si tu mets un peu de décor, tu mets des choses, tu joues avec ta poule. Voilà, faut le savoir le jouer. Et je trouve que le film est plutôt bon enfant, plutôt gentil. Et voilà, je pense que c'est un bon petit film à regarder, un bon petit film français sympathique. Il est sympa celui-là, j'aime bien, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment sur ce film-là.
Et je crois que c'est l'essentiel.
Voilà, tout à fait. Je vous le conseille et puis on va se dire au revoir et se retrouver la semaine prochaine.
Bonne semaine.
14h, voilà.
Voilà.
Lundi, à 14h.
Bonne semaine à vous et merci.
Bonne semaine.